Impromptus littéraires.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Le bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas. »
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour, aujourd'hui pour les lectures italiennes, nous allons nous immerger dans l'univers de Dino Buzzati, puisque nous allons vous proposer quelques lectures de nouvelles qu'il a écrites au cours du XXe siècle. Bonne écoute.
Sono finalmente ritornato, tesoro, ed ora aspetto che tu mi raggiunga. Nell'ultima tua lettera, che ho avuto un mese fa, dicevi a un punto che non potevi più vivere senza di me. Ti credo perché è uguale il sentimento mio. Non è come un'attrazione fatale, quasi un castigo? Di solito, tra uomo e donna, soltanto uno dei due si innamora. L'altro o l'altra accetta o subisce. Nel nostro caso, meravigliosamente, la passione è pari in entrambi. Pazzi tutti e due. Ciò è bellissimo, ma fa anche paura. Siamo come due foglie furiosamente sospinte l'una verso l'altra da opposti venti. Che cosa accadrà quando si incontreranno? Questa lettera impiegherà 48 ore a raggiungerti. Da vari mesi, lo so, tu ti tieni pronta a partire, hai le valigie fatte, hai già preso commiato dagli amici. Per arrivare qui ti ci vorranno un paio di giorni. Mettiamo che tu parta sabato. Tra 4 giorni, cioè lunedì, a cominciare dall'alba, io ti aspetto. Come sarà la nostra vita? In questi anni di lontananza, continuamente ho meditato sulla nostra futura esistenza in comune. Ma non riuscivo mai a rappresentarmi chiaramente le cose. Ogni volta, a sconvolgere il lavoro dell'immaginazione, irrompeva il selvaggio desiderio di te. Oggi, approfittando di una insolita pausa di calma, sento però il bisogno di prospettarti certe cose. Non che ci sia bisogno di persuaderti. Guai se ci fosse ancora, in te o in me, un'ombra di dubbio. Ma rileggendo queste pagine, io penso, durante il viaggio, potrai misurare e assaporare ancora una volta l'opportunità della tua e mia irrevocabile scelta. Vorrei cioè, prima che sia troppo tardi, considerare le rispettive qualità e difetti, le rispettive situazioni, gusti, abitudini, desideri, i quali realizzano, te ne sei mai resa conto, una coincidenza fortunata come non mai. Per cominciare, la posizione sociale. Tu, professoressa di francese alle scuole medie, io, produttore di vin. Io, operatore economico, come si usa dire, e tu, intellettuale. Difficilmente, per fortuna, potremo intenderci fino in fondo. Rimarrà sempre una barriera, una cortina di separazione che la buona volontà, da una parte o dall'altra, non potrà mai superare. Pensa al problema degli amici, per esempio. I miei amici sono gente civile e brava, però semplice. Non intendo dire proprio ignoranti. C'è tra gli altri un noto avvocato, un dottore in agricoltura, un maggiore in pensione. Ma nessuno ha problemi complicati. In genere amano la buona tavola e non sono contrari, te lo assicuro, alle storielle un po' grasse. In loro compagnia mi par già di vederti. Farei dei gran sbadigli, dissimulati magari data la tua raffinata educazione. E ben difficilmente ti ci abituerai. Tu sei una creatura piena di temperamento. La pazienza e la tolleranza del prossimo non sono il tuo forte. E anche per questo ho perso la testa per te. Ora senti una cosa, anche se non c'entra. Se tu riuscissi a partire col primo treno di sabato, così da poter essere qui entro domenica sera, non sarebbe magnifico? Anime gemelle, dicevi, e ti do ragione. L'affinità tra due persone non significa uguaglianza o stretta somiglianza. Al contrario, l'esperienza insegna che significa il contrario, come nel nostro caso. Tu docente di francese, io vinattiere, come nei primi tempi, sia pure scherzando, sei divertita a definirmi. Ti dirò che in Argentina non ho intenzione di tornare mai più. mi è bastata. Ho liquidato le piantagioni ereditate dal mio zio a Mendoza e non mi muoverò più dalla mia terra, almeno spero. Soltanto qui potrei essere felice. Io so, nello stesso tempo, che vivere in campagna, anche se continuerai a insegnare, facendo la spolla con la città vicina, ti metterà addosso la malinconia. E questa, te lo assicuro, è proprio la campagna al 100%. Non c'è dubbio che fin dai primi tempi morderei il freno. Ma ecco, in questo istante mi viene in mente la tua bocca quando la tieni socchiusa come le bambine, quasi aspettando qualche cosa. Direi che sono banale. Quante volte, anzi, avrai occasione di ripetermelo. Ma nelle tue labbra, così tenere, appena sbocciate, si è rannicchiato il demonio, o chi per esso. E dalla tua bocca, te lo confesso, che ho cominciato a perdere la testa. La casa, la mia è abbastanza grande e confortevole. Proprio di recente ho rimesso a nuovo i tre bagni, però molto diversa dalla tua. I mobili sono ancora quelli dei nonni, dei bisnonni, dei trisavoli. Cambiarli, ti confesso, mi sembrerebbe un sacrilegio, come rovesciare una tomba. A te invece piace Gropius? È giusto il nome scritto così? Scusami se è sbagliato. Lo sai che ho fatto appena la terza ginnasiale. A te piacciono i divani, le poltrone, le lampade progettate dagli architetti famosi. Tutto lucido, efficiente, essenziale, ortopedico. Non si dice forse così? In mezzo a tutto questo vecchiume, che, lo capisco anch'io, non può avere la pretesa di essere di supremo gusto, tu come ti sentirai? Basta pensare all'odore che emanano queste stanze, di umido, di buona polvere, di campagna, di bicocca solitaria, e che io amo tanto, scusami. Figurati, tu ti sentirai ricoprire tutta di muffa, ti sentirai una straniera, ti chiuderai in te stessa come un riccio. Vieni, vieni, anima mia. E il temperamento? Io bonario, espansivo, allegrone, qualche volta eccessivo, me ne rendo conto, ma è più forte di me. Tu, educata dalle suore francesi di Saint-Étienne, di famiglia aristocratica, anche se ridotta economicamente almeno. Direi che sono un caffone a scriverti brutalmente queste cose, ma credimi, è meglio così. Abituata a una società di gente colta, raffinata, dove si fanno discorsi elevati d'arte, di letteratura, di politica, e anche i pettegolezzi hanno una certa loro speciale eleganza. Io, campagnolo, che ha letto sì Manzoni, Tolstoi e Shenkevich, ma riconosce la propria inferiorità culturale. Tu piena di scrupoli, di ritegni, sdegnosa, non vorrei dire altezzosa, però che pelle stupenda hai, appena a toccarti vengono i brividi. Te lo ha mai detto nessuno? Che ingenuo sono, chissà quanti te lo avranno detto. Tu arricci il delizioso nasino a una parola sbagliata. Da me chissà quante ne avrai. Non è straordinario tutto questo? Dammi un bacetto, creatura, mettimi il broncio. Altra cosa, tu sei abituata alle grandi città. Una volta mi hai detto che il rombo dell'auto, dei camion, delle sirene, delle autoambulanze, il cigolio dei tram erano per te come delle droghe, che ti rendevano più facile il lavoro di giorno e in compenso alla sera ti conciliavano il sonno. Tu sei insomma un temperamento metropolitano, pieno di elettricità, per così dire. Qui, al contrario, c'è una quiete assoluta, che alle volte fa girare le scatole perfino a me, te lo garantisco. Di notte, poi, soltanto la voce degli alberi, quando c'è vento, il ticchettio delle gocce sul tetto, quando c'è la pioggia, i lontani latrati dei cani quando c'è la luna. No, no, tu mai potrai farci l'abitudine. E allora prevedo già i nervi, le rispostacce, l'irritabilità, l'insopportazione. Ci pensi? Che bello! Guarda che le pubblicazioni sono già fatte. Da un pezzo. Il barocco è disposto a sposarci anche lunedì mattina. Basta che tu arrivi in tempo. Di più, io amo il calcio. Cosa aborita da te. Io sono un vecchio tifoso della Juventus e la domenica sera, se le cose vanno male, perdo perfino l'appetito. Con gli amici, lo immaginerai, si parla a lungo di queste cose, anche durante la settimana. A te, suppongo, verrà semplicemente la nausea. La sera tu mi guarderai in quel certo modo, come si guarda un verme che striscia per terra. Alla sera finiremo per litigare. Prevedo che anche dalla tua cara boccuccia uscirà qualche brutta parola. A proposito, alle nozze si intende puoi invitare chi credi. Potranno dormire all'albergo del Terme, qui vicino, che ha tutto in ordine. A spese mie, naturalmente. I miei parenti, te lo annuncio fin d'ora, saranno una quarantina, come minimo. Vieni qua, coccolina. Lascia che ti stringa a me. Mi piace da morire quando ti metti in muso. Certo, nella grande città le abitudini sono diverse. Quando non vai al cinema, a proposito, hai visto Waterloo? A me è piaciuto moltissimo. Ti trovi con qualche amica, vero? Discutete i problemi della scuola, le programmazioni, fate quel che si dice un lavoro di gruppo. Vi sentite cervelli superiori. Non è forse così? La sera mi pare di avertelo già detto. A me piace passarla davanti alla televisione, una spaventosa abitudine, vero? Intendiamoci, io sono disposto di tanto in tanto ad accompagnarti qualche sera in città, tesoro mio. Guarda però che la televisione è peggio di quanto immagini tu, che ti sei sempre rifiutata di vederla perché la vede anche la tua portinaia. Alla sera, perché nascondertelo, qualche volta vedrai anche tu la partita. Maledirai, lo immagino. Ti rannicchierai sul divano, nell'angolo, sotto una piccola abat-jour, leggendo Teilhard de Chardin. Ho sbagliato a scrivere il nome? Su, amore mio, prendi l'aereo, prendi il razzo interplanetario, il tappeto volante. Non vedo l'ora, non ne posso più. Vieni, tesoro, te lo giuro, saremo infelici. Tino Buzzati, La boutique del mistero.
Lettre d'amour. Je suis enfin rentrée, mon trésor, et maintenant j'attends que tu me rejoignes. Dans ta dernière lettre, que j'ai reçue il y a un mois, tu disais justement que tu ne pouvais plus vivre sans moi. Je te crois, parce que je ressens la même chose. N'est-ce pas comme une attraction fatale, presque un châtiment? D'habitude, entre un homme et une femme, l'un des deux seulement tombe amoureux. L'autre accepte ou subit. Dans notre cas, merveilleusement, la passion est égale pour tous les deux. Nous sommes fous tous les deux. C'est magnifique, mais cela fait également peur. Nous sommes comme deux feuilles furieusement poussées l'une vers l'autre par des vents opposés. Que se passera-t-il quand elles se rencontreront? Cette lettre mettra 48 heures à te parvenir. Depuis plusieurs mois, je le sais, tu te tiens prête à partir. Tes valises sont faites, tu as déjà pris congé de tes amis. Pour arriver ici, il te faudra 2 jours. Mettons que tu partes samedi. D'ici 4 jours, c'est-à-dire lundi, à partir de l'aube, je t'attendrai. Comment sera notre vie? Pendant ces années d'éloignement, j'ai médité continuellement sur notre future existence en commun. Mais je n'arrivais jamais à me représenter clairement les choses. À chaque fois, bouleversant le travail de l'imagination, faisait irruption le sauvage désir de toi. Aujourd'hui, profitant d'une insolite pause de calme, je ressens pourtant le besoin de te prévenir de certaines choses. Non qu'il y ait besoin de te persuader. Malheur s'il y avait encore, en toi ou en moi, une ombre de doute. Sur la route, en relisant ces pages, je pense, pendant le voyage, tu pourras mesurer et savourer encore une fois l'opportunité de notre irrévocable choix. Je voudrais donc, avant qu'il ne soit trop tard, considérer nos qualités et défauts respectifs, nos situations respectives, nos goûts, nos habitudes, nos désirs. Lesquels réalisent, ne t'en es-tu jamais rendu compte, une coïncidence heureuse comme il n'y en a jamais eu. Pour commencer, la position sociale. Toi, professeur de français au collège, moi, producteur de vin. Moi, agent économique, comme on dit, et toi, intellectuel. Nous pourrons difficilement, par chance, nous entendre jusqu'au fond. Il restera toujours une barrière, un rideau de séparation que la bonne volonté, d'un côté comme de l'autre, ne pourra jamais surmonter. Pense au problème des amis, par exemple. Mes amis sont des gens civils et braves, mais simples. Je ne veux pas dire vraiment ignorants. Il y a entre autres un avocat connu, un docteur en agriculture, un commandant à la retraite. Mais aucun n'a des problèmes compliqués. En général, ils aiment la bonne table. Et ils ne sont, par contre, je te l'assure, les histoires un peu grasses. En leur compagnie, j'ai déjà l'impression de te voir. Tu t'ennuieras, étouffant tes bâillements même, étant donné ton éducation raffinée. Et tu t'y habitueras bien difficilement. Tu es une créature pleine de tempérament. La patience et la tolérance du prochain ne sont pas ton fort. C'est aussi pour cela que j'ai perdu la tête pour toi. Maintenant, écoute quelque chose, même si ça n'a rien à voir. Si tu réussissais à partir avec le premier train de samedi, de façon à pouvoir être ici avant dimanche soir, ne serait-ce pas magnifique? Âme jumelle, disais-tu, et je te donne raison. L'affinité entre deux personnes ne signifie pas égalité ou étroite ressemblance. Au contraire, l'expérience enseigne que cela signifie le contraire. Comme dans notre cas. Toi, docteur en français, moi, marchand de vin. Comme dans les premiers temps, même si tu plaisantais, tu t'es amusé à me définir. Je te dirai que je n'ai plus jamais l'intention de retourner en Argentine. J'ai liquidé les plantations héritées de mon oncle à Mendoza, et je ne bougerai plus de ma terre, du moins je l'espère. Je ne pourrais être heureux qu'ici. Je sais, en même temps, que vivre à la campagne, même si tu continueras à enseigner, en faisant la navette avec la ville voisine, te rendra mélancolique. Et ici, je te l'assure, c'est vraiment la campagne à 100%. Il est certain que, dès les premiers moments, tu rongeras ton frein. Mais voilà, à cet instant, me vient à l'esprit ta bouche, quand tu la tiens entr'ouverte comme les petites filles, presque attendant quelque chose. Tu diras qu'elles sont banales. Combien de fois même tu auras l'occasion de me le répéter. Mais dans tes lèvres, si tendres, à peine écloses, c'est tapis le démon, ou qui que ce soit. C'est à cause de ta bouche, je te le confesse, que j'ai commencé à perdre la tête. La maison. La mienne est assez grande et confortable. Très récemment, j'ai refait à neuf les 3 salles de bain, mais très différentes de la tienne. Les meubles sont encore de grands-parents, des bisaïeux, des trisaïeux. Les changer, je te le confesse, me semblerait un sacrilège, comme saccager une tombe. Toi, au contraire, tu aimes Gropius. Le nom est bon, écrit comme ça? Excuse-moi si je me suis trompée, tu sais que j'ai à peine suivi la Terza Ginnasia Allee. Tu aimes les divans, les fauteuils, les lampes dessinées par de grands architectes. Tout lucide, efficace, essentiel, orthopédique. Peut-être que ça ne se dit pas comme ça. Au milieu de toutes ces vieilleries qui, je le comprends moi aussi, ne peuvent pas avoir la prétention d'être du meilleur goût, toi, comment te sentiras-tu? Il suffit de penser à l'odeur qu'émanent ces pièces. Une odeur humide, de bonne poussière, de campagne, de bicoque solitaire, et que moi, j'aime tant. Excuse-moi. Imagine, tu auras l'impression d'être toute recouverte de moisies. Tu te sentiras une étrangère. Tu te renfermeras sur toi-même comme un hérisson. Viens, viens, mon âme. Et le tempérament? Moi, débonnaire, expansif, joyeux, quelquefois excessif, je m'en rends compte, mais c'est plus fort que moi. Toi, éduqué par les sœurs françaises de Saint-Étienne, de famille aristocratique, même si réduite économiquement au moins, tu diras que je suis un rustre de t'écrire brutalement ces choses, mais crois-moi, c'est mieux ainsi. Habitué à une société de personnes cultivées, raffinées, où l'on fait des discours élevés sur l'art, la littérature, la politique, et même les commères ont une élégance qui leur est particulière. Moi, campagnard qui est pourtant lu Manzoni, Tolstoï et Sienkiewicz, mais reconnaissant son infériorité culturelle. Toi, pleine de scrupules, de retenue, dédaigneuse, je ne voudrais pas dire hautaine. Cependant, quelle peau étonnante tu as. Il suffit de te toucher à peine pour avoir des frissons. Personne ne te l'a jamais dit. Oh, comme je suis naïf, qui sait combien te l'auront dit? Tu retrousses ton délicieux petit nez pour un mot incorrect. De ma part, qui sait combien tu en entendras? Tout cela n'est-il pas extraordinaire? Donne-moi un bisou, créature, fais-moi la moue. Autre chose, tu es habitué aux grandes villes. Une fois, tu m'as dit que le vrombissement des voitures, des camions, les sirènes des ambulances, le grincement des tramways étaient pour toi comme des drogues, qui te facilitaient le travail de jour et, en compensation, le soir, favorisaient ton sommeil. Tu es en somme d'un tempérament métropolitain plein d'électricité, pour ainsi dire. Ici, au contraire, il y a un calme absolu, qui parfois m'insupporte moi-même, je te le garantis. Et puis la nuit, seulement la voix des arbres quand il y a du vent, le tic-tac des gouttes sur le toit quand il pleut, les lointains aboiements des chiens, quand c'est la pleine lune. Non, non, tu ne pourras jamais t'y habituer. Et alors, je prévois déjà les crises de nerfs, les réponses désagréables, l'irritation, l'insupportation. Tu y penses, comme c'est merveilleux. Remarque que les bans ont déjà été publiés depuis un moment. Le curé est même disposé à nous marier lundi matin. Il suffit que tu arrives à temps. De plus, j'aime le foot, chose que tu abhorres. Je suis un vieux supporter de la Juventus, et le samedi soir, si les choses vont mal, je perds même l'appétit. Avec mes amis, tu l'imagines, on parle longuement de ces choses-là, même pendant la semaine. Toi, je suppose, tu auras simplement la nausée. Le soir, tu me regarderas de cette façon particulière, comme on regarde un verre qui rampe par terre. Le soir, nous finirons par nous disputer. Je prévois même que ta chère petite bouche sortira des gros mots. À propos, pour les noces, bien entendu, tu peux inviter qui tu veux. Ils pourront dormir à l'hôtel des Thermes, juste à côté, où tout est en ordre. À mes frais, naturellement. Mes parents, je te l'annonce dès maintenant, seront au moins une quarantaine. Viens ici, petite baie, laisse-toi serrer contre moi. Tu me plais à mourir quand tu boudes. Assurément, dans les grandes villes, les habitudes sont différentes. Quand tu ne vas pas au cinéma, à propos, tu as vu Waterloo? Il m'a plu énormément. Vous vous retrouvez avec quelques amis, n'est-ce pas? Vous discutez des problèmes de l'école, des programmes, vous faites ce qu'on appelle un travail de groupe. Vous vous sentez des cerveaux supérieurs, peut-être que ce n'est pas comme ça. La soirée, il me semble te l'avoir déjà dit, j'aime la passer devant la télévision. Une habitude épouvantable, n'est-ce pas? Entendons-nous. Je suis disposée, de temps en temps, à t'accompagner quelques soirs en ville, mon trésor. Remarque, cependant, que la télévision est pire que ce que tu imagines. Toi qui t'es toujours refusé à la regarder parce que même ta concierge la regarde. Le soir, pourquoi te le cacher? Quelquefois, toi aussi, tu verras la partie de foot. Tu détesteras, j'imagine. Tu te blottiras sur le canapé, dans l'angle, sous un petit abat-jour, en lisant Théillard du Jardin. Je me suis trompée en écrivant le nom? Allez, mon amour, Prends l'avion, prends la fusée interplanétaire, le tapis volant. Il me tarde, je n'en peux plus. Viens, mon trésor, je te le jure, nous serons malheureux. Dino Buzzati, la boutique du mystère.
Sono ancora in dubbio se parlarne o no al mio direttore. Mi è capitata una cosa fantastica e terribile. Non è che non mi fidi del mio direttore, ci conosciamo da tanti anni. So che mi vuole bene, ma mi farebbe una cattiveria, figurarsi se mi vorrebbe rovinato. Ma il giornalismo è una maledetta passione. Un giorno o l'altro, senza volerlo, perché il giornale faccia bella figura, garantito che mi metterebbe nei guai. Nel mio caso, non c'è prudenza che basti. È già un rischio scrivere questa pagina di diario. Se capitasse sotto gli occhi di qualcuno e la notizia andasse in giro, chi mi potrebbe salvare? Tutto è la conseguenza di una mia vecchia magna. Ho sempre avuto un debole per la letteratura nera, la magia, le storie di spiriti, i misteri. La mia piccola biblioteca non è fatta d'altro. Fra i libri che posseggo ce n'è uno, manoscritto, formato in foglio, di oltre 200 pagine, vecchio di almeno un secolo. Il frontespizio, come accade per molti volumi antichi, è stato strappato. Tutto il resto è un'ininterrotta successione di parole di 3, 4 e 5 lettere in caratteri corsivi latini assolutamente incomprensibili. Faccio un esempio ad apertura di pagina. Frav besilon itzi itzashi dordo spsaxu ene espia pioche ou menokai. Je me demande encore si je dois en parler ou non à mon directeur. Il m'est arrivé une aventure fantastique et terrible. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en mon directeur, nous nous connaissons depuis bien des années. Je sais qu'il m'aime bien. Jamais il ne me ferait une méchanceté. Pensez donc s'il voudrait ma perte. Mais le journalisme est une sacrée passion. Un jour ou l'autre, sans le vouloir, pour que le journal fasse bonne figure, c'est sûr et certain qu'il me mettrait dans le pétrin. Dans mon cas, on n'est jamais trop prudent. C'est déjà un risque que d'écrire cette page de journal intime. Si elle tombait sous les yeux de quelqu'un et que la nouvelle se répandit, qui pourrait me sauver? Tout est la conséquence d'une vieille manie à moi. J'ai toujours eu un faible pour la littérature de séries noires, la magie, les histoires de fantômes, les mystères. Ma petite bibliothèque ne comprend rien d'autre. Parmi les livres que je possède, il y en a un, manuscrit, format in folio, de plus de 200 pages, vieux d'au moins un siècle. Le frontispice, comme cela arrive pour beaucoup de livres anciens, a été arraché. Tout le reste est une succession ininterrompue de mots de 3, 4 et 5 lettres, en caractères italiques latins, absolument incompréhensibles. En voici un exemple pris au hasard. Prof B si long, it, itza, tita, chi, dor, dor, psax, pou, noum, et as, pioche ou menokai. Je l'ai trouvé chez un brocanteur de Ferrare il y a plusieurs années. Lui n'y attachait aucune importance. Un connaisseur en la matière m'expliqua que c'était un de ces prétendus tabulaires secrets qui commencèrent à se répandre au XVIIe siècle. Leur texte, au dire des nécromans, était le fruit d'une révélation. Et leur secret consistait en ceci. C'est que dans la série monotone et interminable de termes dépourvus de sens, à un certain endroit, se trouvait une formule magique apparemment semblable à tout le reste. Il suffisait de l'allure une fois à haute voix pour être investi de facultés surhumaines, celle de prédire l'avenir par exemple, ou de lire dans la pensée d'autrui. La difficulté consistait à identifier la formule dans ce chaos sans fin. On pouvait penser que pour tomber juste sur les mots fatidiques, la chose la plus simple était de lire à haute voix le livre, de la première à la dernière page, quitte à y passer des mois, de toute façon cela en valait la peine. Mais il n'en était pas ainsi. C'était seulement si, au cours de la lecture, elle n'était pas précédée d'autres mots, que la formule marchait. Il fallait, en somme, commencer exactement par le mot juste. Autant dire trouver une aiguille dans un tas de foin, étant donné les dimensions du texte, sans exclure l'éventualité que l'aiguille n'existât même pas. Sur 100 tabulaires secrets authentiques, me dit l'expert, il y en avait en circulation au moins 99 qui étaient faux. Certains prétendaient même que s'il en existait un seul au monde et que tous les autres étaient des mystifications. En outre, on pouvait se demander si cet unique exemplaire opérait encore, car si l'on avait utilisé une seule fois, la formule perdait tout son pouvoir. Quoi qu'il en soit, plus pour conjurer le mauvais sort que pour autre chose, j'avais pris l'habitude tous les soirs avant de me coucher d'ouvrir le livre au hasard et de lire, en commençant au petit bonheur, à un endroit quelconque de la page, de ligne à haute voix. Entendons-nous bien, ce n'est pas que j'y croyais. C'était une espèce de petit rituel propitiatoire. On ne sait jamais, et ce n'était guère fatigant. Eh bien, le soir du jeudi 17 mai de cette année-ci, après avoir lu à haute voix le passage choisi au hasard pour ce soir-là, malheureusement je ne sais plus lequel c'est, car sur le moment, je ne ressentis rien d'insolite et par conséquent je n'en pris pas note. Un changement survint en moi. Je m'en aperçus quelques minutes plus tard. C'était comme une plaisante sensation de légèreté et de vivacité physique. J'en fus agréablement surpris. Je ne sais pas pourquoi, mais d'habitude je suis toujours si fatiguée. Quoi qu'il en soit, il était tard, je n'avais plus qu'à aller me coucher. Pendant que j'ôtais ma cravate, il me vint à l'esprit que j'avais oublié à côté dans mon bureau le livre que je voulais lire au lit, précisément « Capo Matapan » de Ronald Sett, édité chez Garzanti. À cet instant précis, je me trouvais dans mon bureau. Comment avais-je fait pour arriver jusque-là ? Je suis étourdie de nature, mais il était absurde que je ne me rappelle pas avoir fait le trajet d'une pièce à l'autre. Et pourtant, il en était ainsi. Cependant, je n'y pris pas garde. J'ai si souvent la tête ailleurs et il m'arrive de faire une chose en pensant à une autre. Mais le phénomène se répéta tout de suite après, de façon plus impressionnante. N'ayant pas trouvé mon livre dans le bureau, je me rappelais l'avoir oublié au journal. À cet instant précis, je me trouvais au journal, 28 rue Solferino, précisément au second étage dans mon bureau qui était dans l'obscurité. J'allumais l'électricité, je regardais l'heure, 9h20. Étrange. Avant d'enlever ma cravate, j'avais retiré ma montre de mon poignet, j'avais lu clairement l'heure, 9h18. Impossible que dans l'intervalle, il ne se soit écoulé que 2 minutes à peine. C'est vrai. Mais comment étais-je venu jusque-là ? Je ne me souvenais absolument de rien. Je ne me souvenais pas d'être sorti de la maison, je ne me souvenais pas d'avoir pris ma voiture, je ne me souvenais pas d'avoir fait le chemin, je ne me souvenais pas d'être entré au journal. Qu'est-ce qui était en train de se passer ? Je me sentais en nage. Des doutes horribles se présentaient à mon esprit. Un obscurcissement cérébral ? Ou pire, j'avais entendu parler d'abcès ou de tumeurs au cerveau qui se révèlent par des symptômes de ce genre. Puis tout à coup, il me vint une idée absurde, ridicule, insensée, qui pourtant avait ceci de bon qu'elle excluait l'hypothèse d'une maladie, et pour cette raison, elle paraissait rassurante. De surcroît, elle correspondait en tout et pour tout à ce qui m'était arrivé. L'idée était la suivante. Est-ce que je me serais transportée instantanément de chez moi au journal par un phénomène surnaturel ? Est-ce que ce soir, je serais tombée dans le manuscrit sur la bonne formule et aurais-je acquis le légendaire don d'ubiquité ? C'était de l'imagination puérile, une idiotie. Mais pourquoi ne pas faire tout de suite un essai ? Je pensais, je veux me retrouver chez moi. Il était très difficile de rendre avec des mots le sentiment de celui qui, soudain, passe du monde réel que nous connaissons dans toute une sphère différente et mystérieuse. Je n'étais plus un homme, j'étais quelque chose de plus. Je possédais un immense pouvoir dont personne n'avait jamais joui. Tout à coup, en effet, je m'étais retrouvée chez moi. Signe que j'étais vraiment capable de me déplacer d'un lieu à l'autre, d'une vitesse supérieure à celle de la lumière. Et il n'y avait pas d'obstacle susceptible de m'arrêter. Je pouvais m'élancer d'un pays à l'autre. Je pouvais m'introduire dans les lieux les plus secrets et les plus défendus. Je pouvais me glisser dans les chambres fortes des banques, dans la maison des puissants du jour, dans l'alcôve des plus belles femmes du monde. Mais finalement, était-ce bien vrai ? Cela me semblait impossible, cela me semblait un rêve. Je n'arrivais pas encore à m'en persuader complètement. Je fis quelques autres essais. Je veux me trouver dans ma salle de bain, pensais-je, et je fus dans ma salle de bain. Je veux me retrouver place du Dôme, et je m'y trouvais. Je veux me retrouver à Shanghai, et je fus à Shanghai. C'était une longue rue avec des baraquements. Il y avait de mauvaises odeurs, le soleil se levait. Sacrebleu, me dis-je, j'en ai mis du temps pour venir jusqu'ici. Ce n'est pas la vitesse de la pensée. Puis, je me rappelais l'histoire des fuseaux horaires. Ici, c'était à l'aube, à Milan, il n'était encore que 10 heures du soir. Je vis dans la rue un fourmillement d'hommes et de femmes qui se pressaient dans la même direction. Ils commencèrent à me regarder. Mon accoutrement, certes, détonnait. Puis, un petit groupe vint à ma rencontre avec un air inquisiteur. Deux d'entre eux étaient en uniforme militaire. Je pris peur. Je pensais, je veux être chez moi à Milan. Et je fus chez moi. J'avais le cœur battant, mais quelle allégresse triomphale j'éprouvais intérieurement. C'est que s'ouvrait devant moi un merveilleux avenir d'aventure, de surprise, de volupté, de succès mondiaux. Je pensais à ma profession de journaliste. Rien à voir avec Stanley, avec le vieux Luigi Bartini, avec les bellinogrammes et les téléscripteurs. Un tremblement de terre au Colorado ? Immédiatement, j'étais là-bas, sur place, au-delà des barrages de police, avec mon appareil photo. 10 minutes après, me voici à la rédaction, à écrire. Une crise au Kremlin ? Pan ! Je me postais derrière un meuble avec un magnétophone et enregistrais l'algarade de Khrouchtchev. Une tempête chez Liz Taylor, il suffisait d'y penser et je me trouvais déjà dans sa chambre à coucher, derrière un rideau avec mon appareil enregistreur. Comparé au Corriere, même le New York Times ferait figure de petit canard. Je pensais aussi à la richesse. Oui, je pouvais entrer dans les banques, dans les boutiques des joailliers, dans les dépôts souterrains de Fort Knox. Je pouvais emporter des milliards et des milliards, mais je n'y pensais pas longtemps. À quoi bon les milliards ? Pourquoi devrais-je voler ? Mon journal me fait des ponts d'or, mes comédies me rapportent, chaque année des dizaines de millions. Et ma peinture ? Rien qu'avec mes tableaux, je peux mener la vie grand train. L'amour, plutôt. La luxure. Aucune femme ne pourrait plus se dérober à moi, si dédaigneuse qu'elle fût. Et même, pourquoi ne pas en faire tout de suite l'essai? Je pensais, je veux me retrouver au lit avec A.S. Je ne donne pas son nom, après tout, je suis un gentleman. Je m'y trouvais, parole d'honneur. Elle dormait, toute seule, la pièce était dans l'obscurité, les stores laissaient filtrer quelques reflets de réverbères. Mais je ne me rendis compte qu'elle était toujours... Je me rendis compte que j'étais toujours habillée de pied en cap, avec mes chaussures et tout. Dans le lit d'une belle femme avec des chaussures. Et je mesurais la folie de ce que j'étais en train de faire. Sur ces entrefaites, l'adorable créature se retourna dans son sommeil en me bousculant. Elle se réveilla, entrevit quelque chose, poussa un hurlement terrible. Je pensais, tout de suite à la maison et en vitesse. Ici, dans le calme des murs domestiques, je pris finalement conscience du risque terrible que je courais. Malheur à moi si on apprenait qu'il existait un homme doué de mes prodigieuses facultés. Vous vous imaginez la terreur des chefs d'État, des puissants, des chefs de bande? Savoir que d'un moment à l'autre, je pouvais leur tomber dessus avec un poignard et qu'il n'y avait aucune défense possible. Ma vie ne vaudrait plus un centime. Eh bien, 12 jours sont passés et je n'ai plus répété l'expérience. Je continue mon habituelle vie de travail, mais j'ai perdu la paix de l'âme. Une pensée muante, serais-je capable de résister à la tentation d'exploiter mon pouvoir secret? Ne me ferais-je pas un peu voir un peu partout de par le monde? Ne finirais-je pas par me trahir? Même la perspective des femmes, plus j'y pense, devient invraisemblable. Même en admettant que telle ou telle beauté me voit surgir devant elle pendant qu'elle est au lit ou dans son bain, pourquoi devrait-elle se rendre à mes désirs? Elle ferait le diable à quatre, elle donnerait l'alarme et il ne me resterait plus qu'à déguerpir. Quant au succès journalistique, fatalement, il serait de courte durée. Après les premiers services sensationnels, la panique se répandrait, on procéderait à des enquêtes. Mon apparition à n'importe quel point du globe serait tout de suite signalée. On finirait par m'identifier. Et à l'heure, adieu Dino Buzzati. Un coup de revolver dans la nuque et une bonne dose de cyanure, personne ne pourrait plus t'en préserver.
Mai, mai che un medico dopo un'accurata visata ci dica: caro signore, mi dispiace, non andiamo niente bene. Se lei continua così, scusi la sincerità, ma le do pochi mesi di vita. Perciò è mio dovere parlarle chiaro. Qui si impone un rigoroso regime di vita. Per cominciare, una dieta di ferro. Verdure, latte, frutta cotta, carni bianche sono veleno per lei. Neanche sentirne parlare. Il suo vitto si baserà sui salami, la selvaggina, le papriche e le mostarde. Molto pepe, molto sale. Tut al più, qualche insalata di cipolle e peperoni, ma solo di quando in quando. In quanto al bere, mi duole darla una cattiva notizia, ma acqua e succhi di frutta vanno banditi. Vino, questo sì, e soprattutto whisky. Si rassegni, amico mio, il whisky è per lei il toccasana. Ma sì, anche 2-3 bottiglie al giorno. E ora veniamo agli altri aspetti della sua attività quotidiana. Come prima cosa, mai mettersi a letto prima dell'1, le 2 di notte. Qualche notte bianca sarebbe l'ideale, ma non pretendo tanto. Però il sacrificio più grande, caro signore, è di altro genere. Qui sta la base della guarigione. E il rimedio è presto detto. Donne, donne, donne. Non ce ne saranno mai abbastanza. Giorno e notte, notte e giorno. Bisogna che lei si faccia una ragione e che ci dia dentro più che può. Perché mai un medico simile non esiste?
Le médecin idéal. Jamais, jamais un médecin ne nous dit après une visite: cher monsieur, je suis désolé, vous n'allez vraiment pas bien. Si vous continuez comme ça, excusez ma sincérité, mais je vous donne que quelques mois de vie. Il est de mon devoir de vous parler clairement. Un régime de vie strict s'impose. Pour commencer, une cure de fer. Légumes, lait, fruits cuits, viande blanche sont un poison pour vous. Il n'est même pas question d'en parler. Votre alimentation se basera sur du saucisson, du gibier, des piments, de la moutarde. Beaucoup de poivre, beaucoup de sel. Au plus, quelques salades d'oignons et de poivrons, mais seulement de temps en temps. Pour ce qui est de la boisson, cela me désole de vous donner une mauvaise nouvelle, mais l'eau et les jus de fruits sont à bannir. Du vin, ça oui, et surtout du whisky. Résignez-vous, mon ami. Le whisky est pour vous la panacée. Mais oui, même 2-3 bouteilles par jour. Et maintenant, venons-en aux autres aspects de votre activité quotidienne. En premier lieu, ne jamais se mettre au lit avant 2-3 heures du matin. Quelques nuits blanches seraient l'idéal, mais je ne vous en demande pas tant. Mais le sacrifice le plus grand, mon cher monsieur, est d'un autre genre. C'est la base de la guérison, et le remède est vite dit. Des femmes, des femmes, des femmes. Il n'y en aura jamais assez. Jour et nuit, nuit et jour. Il faut que vous vous fassiez une raison, et que vous y mettiez toute votre bonne volonté. Mais pourquoi donc un médecin pareil n'existe pas ?
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous espérons vous avoir donné envie de lire ou de relire les œuvres de Buzzati, cet écrivain vraiment extraordinaire. Bonne journée, au revoir.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez